Asseyez-vous. Je vous rappelle que mardi soir, nous avons l'étude biblique aussi. Et aussi, pendant tout ce mois d'août, la bibliothèque sera ouverte à la fin du culte. Donc, profitez. Hein, vous avez du temps libre, vous voulez faire de la lecture. Sœur Jacinta sera là pour vous aider avec les livres au fond. Pour ceux qui ont entendu les informations concernant l'Afghanistan, vous avez pensé à Anna et Ryan. Cette semaine, ils sont en Inde. Hein, donc, il n'y avait aucune chance. Mais en plus, ce n'était pas où ils sont. Mais en tous les cas, merci pour vos prières, en tous les cas. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Et notre étude est intitulée « Les faibles commencements ». On ne va pas pouvoir traiter tout le chapitre 13. J'avais l'intention au début, j'avais trois points même. Mon premier point, c'était la consécration de Paul. Mon deuxième point, c'était la confirmation de Paul. Et le troisième, c'était la prédication de Paul. Mais après, j'ai vu que ça commençait à être long. Alors, on va laisser le dernier. Et on va traiter seulement deux points ce matin, la consécration de Paul et la confirmation de Paul. Donc sa consécration au ministère et sa confirmation dans le ministère. Les faibles commencements. Et en fait, les faibles commencements, c'est comme ça que Dieu commence toujours, c'est avec les faibles commencements. Il y en a qui veulent démarrer avec un grand départ, c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Les Olympiques, ça démarre avec tout un programme. Les grandes fêtes, on veut lancer les choses. Dieu, son œuvre, il commence dans la discrétion tout petit. Et c'est l'œuvre qui va porter gloire. Nous continuons dans l'étude de l'apôtre Paul. Vous savez que Paul, bien sûr, nous avons tellement entendu parler de lui qu'on s'imagine, on dit Paul, oui, bien sûr, un apôtre, bien sûr, un prédicateur, bien sûr, un grand missionnaire, bien sûr, c'était un géant de la foi. Oui, bien sûr, c'était un qui a fortement influencé l'Église primitive. Comme on l'a dit déjà aussi, c'est lui qui a vraiment développé cette pensée que l'évangile était pour tous et pas uniquement pour le peuple d'Israël. Mais on doit se souvenir qu'il a eu un commencement. Et Dieu n'a pas bâti sur son passé, Dieu n'a pas bâti sur ses connaissances acquises à Jérusalem, Dieu n'a pas bâti sur sa personnalité, Dieu n'a pas bâti sur ses origines et sa descendance, ses ancêtres. Non. Dieu bâtit sur sa propre œuvre. Et nous devons nous souvenir, et c'est ce que nous allons faire ressortir dans ce premier point, c'est le fait que Dieu ne bâtit pas sur ce que le monde a pu nous donner ou ce que nous avons pu avoir par notre naissance, mais Dieu bâtit sur ce que lui fait en nous. Et donc, même si dans la vie, les choses sont injustes, mais Dieu Il ne part pas à partir de ce qu'on a dans le monde, mais avec ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Et donc, il faut avoir la pensée de Dieu. Paul pouvait avancer le fait que le Seigneur lui avait parlé personnellement. Vous savez, de nos jours, quelqu'un a juste un petit miracle et tout d'un coup, il se croit extraordinaire. Dernièrement, il y a eu le passage dans la région, une personne qui prétend avoir été ressuscitée lors d'un accident de voiture. J'ai entendu d'autres témoignages de personnes qui ont été ressuscitées. Et le résultat, c'est que parce qu'il a été ressuscité, eh bien maintenant, il fait le tour du monde et puis c'est un grand homme. Mais ça ne change rien du tout. Nous faisons valoir ce que Dieu a, ce que nous pouvons faire valoir. Mais Dieu se sert uniquement de son œuvre et c'est lui qui reçoit la gloire et pas l'homme. Paul aurait pu, il dit, mais le Seigneur m'a parlé, il ne parle pas à tous les chrétiens hein, directement. Il y en a qui ont eu des visions, il y en a qui ont eu des révélations, il y a eu des songes, mais Dieu lui a parlé directement. Il pourrait dire, mais moi, écoutez-moi. Il aurait pu faire valoir ses études au pied du grand maître Gamaliel. Il aurait pu dire, mais moi j'ai passé 3 ans dans la méditation, dans le désert, loin du monde, loin du péché. En fait, c'est pas le péché qui est dehors de moi qui me gêne le plus, c'est celui qui est en moi qui me dérange le plus, n'est-ce pas? Quand vous essayez de prier, quand vous essayez de lire votre Bible, c'est pas les bruits extérieurs qui vous dérangent, c'est les bruits intérieurs dans vos pensées qui vous distraient. Paul aurait pu dire, mais j'ai passé 3 ans dans le Sinaï, là où Moïse a reçu les 10 commandements, j'étais là-bas, j'ai le droit de vous parler, j'ai le droit de... Non. Il aurait pu faire appel à Ananias, vous savez, cet homme qui a prié sur lui et les écailles sont tombées des yeux, et à qui Dieu avait parlé et lui avait dit, va, hein, le Seigneur avait dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il aurait pu dire, écoutez, vous ne me croyez pas ? Ananias. Ananias qui habite à Damas, vous allez le voir, il vous dira qui je suis. Paul n'a pas fait cela. Il aurait pu dire aussi que Ananias avait reçu du Seigneur par vision ce message, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et que tu as entendues. Ananias aurait pu dire, mais Dieu m'a dit ça de Paul, vous devez l'écouter. Mais Paul ne fait pas appel à cela. Mais ce que nous constatons, c'est que l'ordre de servir vient par la bouche des anciens de l'église d'Antioche. Lisons, vous avez Actes chapitre 13, nous allons lire les 3 premiers versets. Il nous dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, je dis en passant Niger, hein, c'est le mot nègre, hein, qui veut dire le noir, hein, c'est son surnom, Siméon le noir, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Qu'est-ce qui a permis à Paul de commencer à servir ? Ce n'est pas lui qui a dit, moi, voyez ce qui m'est arrivé, ce qui a été dit de moi. Mais il a attendu jusqu'à ce que la parole soit donnée aux anciens de l'Église. Et c'est l'Esprit qui a donné le signal. Il dit, maintenant vous pouvez l'envoyer. Maintenant il peut servir. C'était par le biais des responsables de l'Église. Le choix de Dieu avait été déclaré sur le chemin de Damas. Quand il était sauvé, le Seigneur lui a dit, tu vas me servir. À Damas, l'Esprit avait dit, par Ananias, cet homme va me servir. D'accord ? Il y avait l'appel, mais il ne pouvait pas commencer. Vous savez, souvent nous commettons l'erreur, c'est de croire que dès le moment où le Seigneur me dit, écoute, toi, je vais me servir de toi, ben ça y est, on part. Il dit, non, non, je te dis que je vais me servir de toi, mais attends que je te donne le signal. Et trop souvent, il y a des faux départs. Et après, on est étonné, on dit, mais Seigneur, tu m'avais dit, je voulais te servir, tu m'avais dit que j'allais te servir et tout, et puis finalement, tu m'as laissé tomber. Mais il faut croire, pour Paul, avec tout ce que Dieu a dit de Paul, ou Saul, il s'appelait encore Saul à l'époque, il y a 10 ans entre sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas et Actes chapitre 13. Il y a 10 ans qui passent. Dieu lui a dit, tu vas me servir. Mais c'est 10 ans plus tard qu'il commence à servir. Et vous savez, on pourrait penser la même chose de David. Vous connaissez bien David, le jeune berger. Samuel est venu, il l'a oint. Il a dit, tu seras roi d'Israël. Mais ce n'était pas tout de suite qu'il était roi d'Israël. C'est 10 ans plus tard, alors qu'il a passé 10 années dans la fuite et à attendre avant le couronnement, avant qu'Israël vienne et dise « Sois notre roi ». Et nous devons comprendre qu'il y a un temps qui s'écoule entre le moment où Dieu nous choisit et un moment où le Dieu nous envoie. Et on peut se demander pourquoi. C'était pareil avec les disciples. Hein. On a dans Luc 6, les versets 12 à 16, et il y a Jésus, de parmi tous les disciples, il a prié toute la nuit, et de parmi tous ceux qui étaient prêts à le servir, il en choisit 12. Et ces 12-là, eh bien, pendant 3 ans, ils ne font que suivre, ils ne font qu'écouter, ils ne font que voir. Et ce n'est qu'au bout de 3 ans, ou plus de 3 ans, qu'ils sont appelés à servir. Et c'est là, je crois que c'est là où il faut souligner l'importance que Dieu s'accorde du temps pour faire quoi ? Pourquoi attendre ? Eh bien, vous savez, il y a un temps entre le moment où le potier choisit une masse d'argile et le temps où nous avons un vase qui est dans une maison et qui sert. Il y a tout un travail entre la masse d'argile et le vase qui sert dans une maison. Il y a un processus, il y a une transformation, il y a un travail à faire avant d'être rendu utile. Le minerai de fer qui est tiré de la montagne, du sous-sol, avant de devenir un outil qui puisse servir, il y a beaucoup de transformation, il y a tout un travail à faire. Même pour faire juste un marteau ou juste un clou. J'étais étonné un jour, il y avait un frère qui était venu de l'étranger et puis il voulait chercher des outils et il cherchait une machine à faire des clous. Je ne savais pas que j'ai jamais posé la question, une machine pour faire des clous. Et puis, en cherchant, et puis ça, c'est une machine simple. Et puis, on fait des clous avec du fil de fer. Jamais pensé à ça. On dit, c'est rien du tout. Mais il y a quand même, il y a un travail de transformation. Et nous, le Seigneur nous trouve dans quel état quand il nous trouve ? Quand il nous tire du monde, quand il nous sauve. Sauver, ça veut dire, il nous sort de là. Mais ça ne veut pas dire qu'on est transformé. Ça veut dire qu'il nous sort de là. Et après, il commence d'abord le tuyau d'arrosage. Hein, il faut qu'il nous purifie pas mal. Hein. Et après, il y a toute une transformation pour faire un outil pour un travail particulier et précis. Mais en plus, la complication que Dieu a, c'est que non seulement nous étions à l'état brut, et pas du tout, il n'y a rien en nous pour faire une œuvre spirituelle digne de Dieu, mais en plus, nous étions déjà transformés en un outil contraire à l'œuvre de Dieu. Donc, il doit faire une refonte pour obtenir un nouveau matériau qu'il peut transformer pour en faire un outil. Et plus la tâche est précise qu'il a pour nous, plus il va prendre du temps pour former, pour faire un outil précis. Le marteau, ce n'est pas très précis. Pourquoi ? Ça sert à beaucoup de choses. Mais vous avez d'autres outils qui n'ont qu'une seule fonction. Vous allez chez le mécanicien, bien sûr qu'il a la pince, le tournevis et le marteau, ça c'est tous les jours, il s'en sert souvent. N'est-ce pas, Tarek? Mais il y a d'autres outils, il n'y a qu'une seule tâche. On s'en sert peut-être une fois par mois, une fois tous les 6 mois, il n'y a qu'une seule tâche. C'est un outil très spécialisé. Mais le Seigneur a la même chose. Et il a un travail à faire. Et ce n'est pas étonnant qu'entre le moment où je suis sauvé et le moment où je commence à servir, il y a du temps qui passe. Et il faut aussi, en passant, j'ajoute la complication, c'est que le potier qui prend son argile, l'argile n'a pas de volonté, il ne s'oppose à rien du tout, il se laisse faire. Le minerai de fer, il se laisse faire. Mais quand Dieu a affaire avec des êtres humains, ils ont une volonté qui est parfois contraire. Hein? Le potier, quand il prend son argile et le met sur sa tour, son tour, la masse reste là, hein? Il se laisse travailler. Nous, il nous place là pour travailler, il regarde à côté, boum, on est parti. Il doit nous rattraper, nous ramener, il revient ici, et puis il recommence, et aïe, 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 ça fait mal, et puis on se sauve. Hein? C'est comme les petits-enfants qui, dès qu'ils voient une blouse blanche. Et après, on se demande pourquoi ça prend du temps. On se dit, pourquoi Dieu, pourquoi? Et oui, ça prend du temps. Et puis Dieu veut transformer son outil. Et là, même avec l'apôtre Paul, c'était un homme orgueilleux, un homme qui était sûr de lui, un homme violent. Il y avait un travail à faire. C'est pas étonnant que ça a pris 10 ans. Certaines épouses disaient, oui, mon mari, ça fait 10 ans que j'essaie de le transformer aussi, ça ne bouge pas beaucoup. Si vous n'êtes pas convaincu, demandez à ma femme. Et le Seigneur, il a le même problème. Et il veut nous transformer pour nous rendre utiles. Et donc, il y a le moment du salut, c'est où le Seigneur nous récupère, nous prend pour lui. Mais après, il y a un moment de transformation. Et après, il y a un moment où il nous dit, maintenant tu es prêt, je te consacre, c'est-à-dire tu es mis à part pour une tâche particulière. Et elle est différente pour chacun de nous. C'est pour ça que je ne peux pas regarder celui d'à côté de moi. Je dis, mais pourquoi lui, pas moi? Lui, pourquoi elle est comme ça? Et puis, on est tous différents. On est tous différents. Là, ce qu'il a à faire avec chacun de nous, c'est différent. La tâche est différente et nous ne pouvons pas nous comparer. Et nous ne devons pas nous comparer les uns aux autres. Il n'y a pas de tâches qui sont plus importantes que notre. C'est à chaque outil de bien remplir sa tâche. La transformation que le Seigneur doit faire avec nous, c'est un peu celle dont il nous parle dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 2. Regardez, c'est Ésaïe, chapitre 2, verset 4. C'était une manière imagée d'exprimer une transformation, une refonte. C'est ce que le Seigneur va faire quand il viendra sur terre. Et c'est une expression pour exprimer le fait qu'il va établir la paix. Ésaïe, chapitre 2, verset 4. Il dit, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples et de leurs glaives, c'est-à-dire leurs épées. Ils forgeront des hoyaux, c'est-à-dire c'est ce qui permet à labourer la terre, et de leurs lances, un instrument de guerre, faire des serpes, c'est-à-dire c'est pour moissonner le blé. Donc à partir d'armes, il les transforme pour faire des outils de travail, des outils agricoles. Mais c'est un peu ce que Dieu veut faire avec nous. Nous étions des instruments que le diable utilisait pour casser, détruire. Et il doit faire une refonte pour faire de nous des instruments qui produisent, qui moissonnent pour le maître. Et donc, c'est pas étonnant que nous avons un verset tel que Romains chapitre 12, verset 2, qui nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés. par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pas seulement que Dieu dit, mais bon, tu sais parler, ben alors je te donne un don qui permette de parler. Non, 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 il dit, je cherche pas à savoir ce que tu sais faire. Ce que je veux d'abord, c'est que tu changes toute ta mentalité. Tu changes toutes tes pensées. Tu vois le monde autrement. C'était pas étonnant qu'il fallait que Saul passe 3 ans dans le désert. Il faut que vous soyez transformés, métamorphosés. Une métamorphose, c'est la chenille qui mange les plantes du jardinier et qu'il veut tuer, qui s'est métamorphosée en devenant un papillon qui égaye le jardin. Et finalement, c'est ce que Dieu a besoin de faire, de nous transformer, métamorphoser. Donc ne soyons pas étonnés que ça lui prenne du temps. Nous, on voit passer le temps et on voit les semaines qui passent. Il dit, mais moi, je dois faire une œuvre avant de pouvoir vous utiliser. Parce que sinon, vous allez croire que c'est vous qui le faites. Et donc, un temps entre le moment du salut et le moment où nous sommes consacrés à une œuvre particulière. Et ce moment de consécration, eh bien, ce n'est pas forcément un temps de grand bruit et de festivité. Ça s'est passé tout simplement là, à Actes chapitre 13, verset 3, il nous dit, « Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » Tout simplement. Ils ont jeûné et prié, ils ont imposé les mains. Je fais une parenthèse. Souvent, on me pose la question, on dit, c'est quoi l'imposition des mains? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne le faites pas dans votre église? Vous n'y croyez pas? C'est dans la Bible? Et puis, il y en a d'autres qui imposent les mains à tout bout de champ. Écoutez, l'imposition des mains, il ne faut pas aller chercher très loin pour comprendre ce que ça veut dire. On la voit dans l'Ancien Testament. L'imposition des mains, c'était quand on offrait un sacrifice. Celui qui avait péché amenait un agneau. Devant l'autel, il posait sa main dessus et il s'identifie à cet agneau. Il dit normalement c'est moi qui dois mourir, mais c'est cet agneau qui va mourir. En posant sa main, il s'identifie et c'est l'agneau qui mourait pour lui. Donc le fait de poser la main, ça veut dire une identification. On devient un avec. Eh bien, c'est la même chose ici. Lorsque les anciens ont posé les mains sur Saul et Barnabas, eh bien, ils ont dit, nous sommes un avec vous. Vous êtes ceux qui partent, mais nous, on est un avec vous. Et parce qu'ils étaient un, chaque fois que Saul partait, ou Paul partait, à la fin du voyage, ils revenaient toujours à Antioche pour leur dire ce qui s'était passé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient un, ils étaient une équipe ensemble. L'imposition des mains, un homme, peu importe qui il est, n'a rien à donner à un autre homme. Aucun pouvoir spirituel, rien du tout. Tout ce qu'un homme peut avoir, s'il a quelque chose de valeur, il l'a reçu de Dieu. Et c'est Dieu qui le lui a donné, et il n'y a que Dieu qui peut le donner à un autre. On n'a rien, Dieu n'a pas besoin de passer par quelqu'un. Ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit, ça a été direct. Au début, Pierre le faisait, c'est parce que c'était une manière de dire, c'était d'abord les Juifs, ensuite c'était les païens, c'était les Samaritains, et c'était une manière symbolique, mais finalement, quand chez Corneille, quand ils sont mis à parler en langue, Pierre n'avait pas imposé les mains, tout d'un coup ça s'est mis en place. C'était un signe pour lui, pour qu'il se rende compte que eux pouvaient être sauvés aussi. Donc Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. C'est pour nous, entre êtres humains, c'est une manière de dire, nous sommes un avec toi. Les représentants de l'Église disaient de cette manière, nous, en tant qu'Église, nous sommes un avec vous. Donc, là, après une dizaine d'années, et Saul sert dans l'église d'Antioche pointe depuis un an, c'est l'Esprit de Dieu qui a dit, maintenant je veux que vous envoyiez ces 2 hommes. Barnabas et Saul. Ça, c'est pour la consécration. Consécration, c'est-à-dire, c'est mise à part pour une tâche particulière. Hein, c'est... Mais ensuite, Dieu confirme cette chose, ce choix. Et donc, nous avons Barnabas et Saul qui continuent leur voyage, qui quittent Antioche et pour commencer leur premier voyage missionnaire. Nous allons lire ces versets, ces 12 premiers versets, c'est-à-dire à partir de 4 jusqu'à 12, acte 13, versets 4 jusqu'à 12. Il dit « Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, remarquez, hein, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, donc une ville à l'est de l'île de Chypre, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. » Jean ici, c'est Jean, c'est Jean-Marc. C'est Marc, c'est celui qui est l'auteur de l'évangile de Marc. Hein, donc, il a plusieurs noms. Hein. Jean, c'est hébreu, hein, Yohanan. Et puis, Marc, c'est Marcos, hein, qui est son nom hébreu, grec. Donc, c'est pour ça qu'il a plusieurs noms. Verset 6. « Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, ou Bar veut dire fils. Et Jésus, c'est l'équivalent de Josué, hein, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, aussi Bar-Jésus, hein, le magicien, c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, c'est-à-dire sur Élimas, sur Bar-Jésus, et lui dit, « Homme, plein de toute espèce de ruse, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Donc, ce que nous avons, c'est, bien sûr, le Saint-Esprit a formé une équipe. Hein, c'est le Saint-Esprit qui a dit Barnabas et Saul. Pour ceux qui sont d'éducation catholique, hein, vous avez grandi dans l'Église catholique, vous avez peut-être entendu Barnabé, hein, c'est le même. Barnabas, Barnabé, c'est le... Donc, cette équipe de Saul et Barnabas sont l'équipe. C'est Barnabas qui invite Jean ou Jean-Marc, son neveu, à se joindre à eux. Nous ne savons pas ce que Jean-Marc attendait de ce voyage, mais il ne va pas aller jusqu'au bout. Il va rentrer avant la fin du voyage. Hein, il va... Mais l'équipe... Eh bien, l'équipe, elle reste jusqu'au bout. Pourquoi ? C'est une équipe que Dieu a mis en place. Hein ? Dieu met une équipe ensemble et elle va jusqu'au bout du voyage. Et l'équipe reste même si les rôles sont inversés dans cette équipe. Parce que vous voyez, au début, on voit Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. Et puis, vous allez au verset 13, vous dit Paul et ses compagnons. Tout d'un coup, ça change. C'est Paul, le chef d'équipe, et les autres accompagnent. Les choses se sont inversées, mais l'équipe se maintient. Et à partir de cette expérience-là, eh bien, vous allez trouver toujours Paul et Barnabas. Ça a commencé Barnabas et Paul, ça devient, à partir de Paphos, ça devient Paul et Barnabas, sauf quand cette équipe va visiter Jérusalem. Et eux, ils ont du mal. Pour eux, Barnabas est toujours le plus important. Et dans Jérusalem, dans Actes chapitre 15, eh bien, ce sera Barnabas et Paul. Mais dans l'Esprit de Dieu, c'est devenu Paul et Barnabas, sans problème. Nous avons dit qu'ils sont passés par Salamine et que là, ils ont parlé dans les synagogues des Juifs, donc plusieurs synagogues. Il devait y avoir une grande communauté juive là, mais on n'a aucune idée des résultats de ce qui s'est passé, si ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé, rien du tout. L'importance n'est pas mise là. Mais ce qui se passe à Paphos, là, Luc, poussé par l'Esprit de Dieu, là, il rentre dans les détails et nous dit, parce que c'est un moment précis qui indique quelque chose. C'est le moment de la confirmation de l'appel de Paul. Parce que là, ils sont là dans la maison de Sergius Paulus. Et Sergius Paulus exprime de l'intérêt pour ce que Barnabas et Saul ont à dire. Mais ce Bar Jésus, ce magicien, lui essaye de distraire. Peut-être est-ce qu'il a peur que si son maître écoute ces hommes, lui, il n'aura plus de boulot et il pense à ses intérêts. Ou peut-être, justement, celui qui est entre les mains du diable, il est toujours contre l'œuvre de Dieu. Mais en tous les cas, tout d'un coup, là, l'apôtre Saul encore, il est rempli de l'Esprit de Dieu et il regarde ce Bar Jésus dans les yeux, et là il lui dit ce que Dieu pense de lui. Il est saisi d'une sainte jalousie pour Dieu, et cet homme Bar Jésus ou Elimas reçoit une cécité temporaire, il est temporairement aveugle, pas pour longtemps mais pendant un temps, juste de quoi le calmer un peu. Et c'est là, pour la première fois, qu'on remarque l'Esprit de Dieu qui se saisit de ce Saul et qui se sert de lui. Et là, Saul va commencer à parler. Ce païen va entendre le message pour la première fois, il va croire, il va être sauvé. Et vous vous souvenez que le ministère de Paul, c'était un ministère auprès des païens. Et là, Dieu confirme son appel. Finalement, il y a eu, sur le chemin de Damas, Saul est sauvé. Dieu lui dit, je vais me servir de toi, mais bon, je te prépare. Là, Dieu confirme qu'il est prêt et qu'il peut y aller. Et Dieu se sert de lui. Et c'est là où Barnabas va constater ce qui se passe. Il va voir la main de Dieu. Il va dire, moi, si Dieu comme ça, moi je me retire, vas-y. Tellement il est sage. Remarquez, là, nous avons vu que Sergius Paulus a exprimé le désir d'entendre, mais il ne pouvait pas entendre, il y avait un obstacle. Il y avait ce Elimas, ce magicien qui était là, qui est un obstacle pour l'empêcher d'entendre. Et Dieu va s'occuper de cet obstacle, il va l'écarter, pour que Sergius Paulus puisse entendre le message, et il nous dit au verset 12, il dit, alors le préconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé par la doctrine du Seigneur. Il a vu, mais il a été frappé par la doctrine du Seigneur. Et il a cru. Vous savez, parfois dans nos vies, Peut-être que nous avons envie, ou peut-être vous pouvez dire dans votre témoignage, mais dit, mais pendant longtemps, j'ai cherché, j'étais toujours sensible aux choses spirituelles. Mais je ne sais pas, j'arrivais pas. Il y avait quelque chose qui m'empêchait. Et il fallait qu'un jour, Dieu écarte, peut-être par un malheur, peut-être par une déception, peut-être par un choc. Dieu écarte l'obstacle pour que je puisse vraiment entendre la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a frappé Bar-Jésus de cécité? Pas parce que Dieu aime faire le mal, mais parce qu'il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Selon les hommes, c'était un magicien, un juif, un faux prophète. Mais selon l'Esprit de Dieu, c'était un homme rempli de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de la justice, qui pervertit les voies droites du Seigneur. Et Dieu l'a seulement frappé de cécité temporaire. La question que je pose, c'est avez-vous identifié ce ou celui qui pervertit les voies du Seigneur dans votre vie? Vous n'arrivez pas à marcher pour le Seigneur. Vous voulez, vous avez l'intention, vous avez promis combien de fois, je veux suivre le Seigneur, et vous n'y arrivez pas. Ce n'est pas par faiblesse, nous sommes tous faibles. Personne n'a la capacité. Mais il y a un obstacle, il y a quelque chose qui vous distrait. Vous êtes un peu, vous voulez, et en même temps, il y a quelque chose qui vous attire par là. Est-ce que vous avez identifié cette chose qui vous distrait? Peut-être un rêve de jeunesse, peut-être une ambition, peut-être un désir, peut-être une personne, une amitié, une pensée, une manière de voir les choses qui a besoin d'être changée pour pouvoir bien voir Dieu. Est-ce que vous avez identifié ce qui est en train de pervertir les voies du Seigneur dans votre vie? Avez-vous invoqué l'aide de Dieu pour neutraliser le temps que vous répondiez à l'appel de la parole? Y a-t-il des liens que le Seigneur doit suspendre? Vous êtes encore attaché à quelque chose? Il y a quelque chose qui vous retient? Alors dites, Seigneur, coupe ces liens. Écarte ces choses pour que je puisse te voir. Une fois que nous sommes engagés dans la marche avec le Seigneur, eh bien, nous n'avons plus à nous préoccuper des élimasses du passé, de ces obstacles du passé. Peut-être il y avait, je me souviens, qu'il y avait quelque chose dans ma vie, vous dites, c'était une passion, c'était un rêve, c'était une amitié, c'était des liens de sorcellerie peut-être, c'était des affections. Dites, c'était des choses qui me retenaient. Oui, mais une fois que vous avez été libéré de cela pour voir le Seigneur, maintenant, ne vous occupez plus de ces élimasses, de ces obstacles. Une fois que le Seigneur l'a réglé, c'est réglé. Maintenant, je garde les yeux sur le Seigneur. Le diable, il va venir vous rappeler, il vous dit, mais tu te souviens, avant, tu avais un petit problème de la cigarette, là. Et tu sais, tu ne devrais pas être fier. Comment tu vas te lever dans l'église et dire quelque chose et rendre témoignage? Non, non, dit, Seigneur m'a pardonné. Le Seigneur m'a libéré. J'espère. Celui qui dit, le Seigneur m'a libéré, mais garde toujours une cartouche dans le placard, ça, ce n'est pas une libération, ça. Il dit, si jamais un jour je reprends, au moins, ils ne seront pas chers. J'ai une bonne affaire là-dessus. Non, non, non. Vous savez, il y en a qui font ça. Il dit, moi, avant dans le monde, j'étais pris dans la musique du monde et il n'y avait que ça, j'écoutais ça tout le temps, métro, boulot, dodo, tout le temps la musique. Il dit, mais maintenant le Seigneur m'a libéré, mais les CD ils sont toujours à la maison. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec? Ça y est. Tu fais supprime tout ça qui est dans ton ordinateur. Et puis tu gardes les yeux sur le Seigneur. Oui, il y a des élimas. Le diable en a envoyé. Nous en avons tous des choses qui sont là pour essayer de nous distraire. Seigneur, écarte-le pour que je puisse te voir, toi. Avoir les yeux fixés sur toi. Et ne regardez pas en arrière, dites-le. Satan, va voir Jésus, c'est notre intercesseur. Va le voir, lui, il t'expliquera pourquoi je ne pense plus à ces choses-là, parce que tu m'as pardonné. Vous lisez Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et vous n'allez pas trouver où Dieu constamment est en train de dire à Moïse, « Moïse, tu sais, tu as tué un homme, hein, n'oublie pas. » Non. C'est vrai qu'il a tué un homme. Mais ça y est, c'est pardonné. C'est maintenant, on va de l'avant. Ne pensez pas des péchés, si ça a été confessé. Si le Saint-Esprit vous rappelle quelque chose, si c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est en lisant la Bible que la pensée vient. Bon, si c'est en regardant un film, ça c'est autre chose. Si c'est en lisant la Bible que quelque chose vous vient de votre vie passée, chose tout simple, c'est « Seigneur, merci, ben, je veux régler ça tout de suite. Je veux que tu me délivres de cette chose, tu me pardonnes, c'est réglé, moi je continue avec toi. » Et puis après vous n'y pensez plus. Hein? Vous voulez vraiment, vraiment concrétiser ce choix, écrivez la chose sur un bout de papier, et après vous allez, faites attention où vous allez, puis vous le brûlez, vous le déchirez en morceaux, vous le mettez dans les toilettes, vous faites ce que vous voulez, mais comme ça, dans votre, c'est réglé, c'est parti. Faites, si vous avez besoin d'un signe concret, faites-le, mais après, ne revenez plus dessus. Quand Dieu pardonne, c'est pour de bon. Ça reste dans notre mémoire. Paul n'a jamais oublié qu'il était un homme violent. Mais il n'a jamais été freiné dans sa vie chrétienne parce qu'il avait été un homme violent. Il s'en souvient, il est resté toujours humble. Il ne s'est pas cru meilleur que les autres. Dieu pardonne, il n'en parle plus, même si ça reste dans notre mémoire tant que nous sommes encore sur terre. Je pense que ça sera effacé de notre mémoire, beaucoup de choses seront effacées de notre mémoire une fois que nous entrons dans la gloire. Ça fait partie de la transformation du corps, à la résurrection. Là, ce sera reformatage complet de la tête. Hein, tous les mauvais fichiers seront détruits. On n'aura que le logiciel du ciel dans notre pensée. Le Seigneur dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Celui qui est tout le temps en train de regarder en arrière pour voir, il dit, mais moi j'ai fait ça, on m'a fait ça, on m'a dit ça. Tout le temps en regardant en arrière, celui-là, il ne va pas avancer dans la vie chrétienne. Il dit, celui qui met la main à la charrue, mais il regarde droit devant. Mon père était agriculteur, il était à l'époque où on est passé du cheval au tracteur. Mais il disait, quand on trace un sillon, hein, quand on laboure, et on trace le premier sillon, parce qu'après les autres, ils sont alignés dessus. Il dit, il ne faut pas regarder ni devant ni derrière. Mais il faut regarder, se donner un repère devant et regarder droit devant. C'est comme celui qui apprenait à faire de la bicyclette, mais il était tout le temps en train de regarder sa roue. Il tombait tout le temps. Il dit, non, regarde pas ta roue, regarde droit devant. Et puis ça marche. Mais la vie chrétienne, c'est pareil. Il dit, regarde devant, fixe les yeux sur le Seigneur et là où tu veux aller. Regarde pas en arrière. Tournez le regard vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Oui, le diable, il va essayer de nous distraire. Non. Quand Sergius Paulus a pu voir directement et entendre les paroles du Seigneur, il nous dit qu'il a cru. Il a cru. Dans cette équipe, je reviens à cette équipe que le Saint-Esprit a mis en place. Ça a commencé, c'était Barnabas le meneur, et seul l'accompagnateur. Quand le Seigneur a montré de manière précise qu'il était avec Saul, et bien tout d'un coup, il y a un ministère nouveau qui s'est déclaré. C'est à ce moment-là qu'il s'appelle Paul. Il prend un nom latin. Saul, c'était un nom hébreu. Maintenant, il prend un nom latin, Paulus, qui veut dire le petit, le faible. C'est intéressant, hein? Il dit, c'est comme ça que je veux. Il dit, il s'appelle Paul, et Barnabas dit, si Dieu veut comme ça, que ça soit comme ça, moi, je suis pour. C'est peut-être pour ça que Jean-Marc, il n'a pas supporté, il n'a pas fait la... Parce que c'est à ce moment-là qu'il abandonne. Et peut-être Jean-Marc, il a dit, non, et tonton, tu ne vas pas le laisser, lui, le petit jeune là, toi, tu as de l'expérience, tu es de l'Église, l'Église de Jérusalem t'a envoyé, tu es un apôtre. Lui, c'est un ancien persécuteur, tu ne vas pas le laisser lui être premier. Barnabas était trop mature. Quand il voit que Dieu a choisi quelqu'un, il dit, moi, je me mets derrière l'homme de Dieu. Lui, il avait cette attitude qui était chez Jean-Baptiste, qui a dit, qui a vu que qui était Jésus. Il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'œuvre du Seigneur. Vous savez, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6, 1 Pierre chapitre 5, verset 6, vous savez, chez les hommes, comment on fait quand quelqu'un nous dérange, on le critique. Hein, on démolit, on critique pour s'élever. On rabaisse la personne pour pouvoir s'élever. On marche dessus, hein, ça se fait, on a tous souffert, hein, c'est autour de nous, il n'y a que ça. Hein, c'est la politique, la guerre, l'économie, tout est basé là-dessus. Hein. Mais le principe biblique dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6, et Pierre est un vieillard là quand il écrit cela, il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Paul, on disait tout à l'heure, Paul aurait pu dire, mais moi, le Seigneur m'a parlé, Paul, moi. Il dit non. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Laisse Dieu faire. Bouge pas. Et il t'élèvera au temps convenable. Il y a l'intention de Dieu et il y a le temps convenable pour réaliser son intention. Et Barnabas connaissait ce principe et dit, Dieu l'élève, et bien Dieu l'élève. Moi, je deviens numéro 2. Mais nous devons faire très attention aussi, souvent notre ancienne nature et ou bien les méthodes du monde, elles rentrent dans l'Église et on essaie de faire la même chose. L'expression qu'on emploie dans les environs, c'est tu casses quelqu'un pour t'élever. Non, ça c'est pas chrétien. Paul n'a pas critiqué Barnabas. Il dit, Barnabas, mais écoute, le Seigneur m'a appelé, moi. Laisse-moi faire. Non, il n'a pas bougé. C'est Dieu. Et quand Barnabas a vu que Dieu avait choisi Paul, eh bien, il a dit, vas-y. Et donc, l'expression, Paul et ses compagnons, puis après, il va, et par la suite, c'est toujours Paul et Barnabas pour le reste du voyage. Ça montre la maturité de Barnabas, même s'il était plus âgé que Paul, même s'il était celui qui avait rendu service à Paul. Barnabas aurait pu dire, mais Paul, tu sais, c'est moi qui t'ai présenté à Pierre, hein. Tu te souviens? C'est moi que l'Église a envoyé à Antioche Ier, c'est moi qui suis venu te chercher à Tarse pour t'amener là. Si sans moi, tu serais rien du tout. Non. Ces deux hommes ont compris que c'est Dieu qui décide. Et que ce n'est pas basé sur... Vous savez, dans notre... Parfois, on perd patience, et parfois, on s'impatiente, dit Seigneur, mais pourquoi? Et l'autre, et moi, et... Il dit, humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur, et il t'élèvera en temps convenable. Et peut-être que certains, c'est après leur mort qu'ils sont élevés, parce que là, on se rend compte qui ils étaient vraiment. Certains, c'est pendant leur vie, Certains, c'est après un long moment. Parfois, c'est il y a une épreuve particulière et c'est là où on se rend compte de la stature d'une personne. Mais la question, c'est, ce n'est pas à moi de m'élever, c'est au Seigneur de faire son œuvre. Paul avait compris. Il a eu un renouvellement de l'intelligence. Quand avant Damas, c'était la force, les lettres des anciens de Jérusalem, c'était la brutalité, la violence, c'était comme ça qu'il allait contrôler la situation. Mais beaucoup plus tard, il écrira aux Corinthiens dans la deuxième lettre, chapitre 12, verset 10, il dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, je compte plus sur le Seigneur, et c'est alors que je suis fort. » Le plus puissant n'est pas celui qui se lève debout et qui élève la voix. Le plus fort, c'est celui qui se met à genoux devant le trône de la grâce. Et en disant tout cela, je suis en train de vous dire ce que le Seigneur nous dit à tous. Hein. Et nous avons besoin d'être rappelés de cela. Mais Paul, les faibles commencements. Et beaucoup de choses dans nos milieux chrétiens ne se passent pas comme se sont passées là. Mais ici, c'est caractéristique de l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu commence toujours par, d'abord on s'abaisse devant lui. Si on ne s'abaisse pas, éventuellement il est obligé de nous abaisser par des moyens. Parfois il se sert de ceux qui ont envie de nous abaisser. Parfois il se sert de circonstances. Parfois il laisse des choses se passer pour nous abaisser. Et c'est lorsque nous sommes abaissés devant le Seigneur, c'est là que l'on trouve des forces nouvelles. Et que l'œuvre de Dieu commence à se faire dans nos cœurs. Avec ma femme est en train de lire un livre sur la prière et on discute de temps en temps. Et puis je me souviens, une fois on parlait des effets de la prière. Souvent, on parle beaucoup de ce qui va se passer parce que j'ai prié. On est tellement préoccupé avec... J'ai prié, donc il y a quelque chose qui va arriver. Un miracle, une transformation, les situations se règlent, il guérit. On parle de ce que la prière va faire. Ce qu'on oublie beaucoup, c'est ce qui se passe en nous pendant que nous prions. Si c'est vraiment une prière. Parce que c'est pendant que je prie que le Seigneur est en train de faire une œuvre en moi. Et qu'il peut me parler. Ce n'est pas tellement le résultat de ma prière... C'est le résultat de ce qui se fait en moi pendant que je prie. Et alors, quand c'est des prières, micro-prières, hein, comme on dit, hein, c'est instantané, ouais, on ne lui donne pas beaucoup de temps. Après, on s'étonne que le travail ne progresse pas. Son œuvre en nous ne progresse pas. Ceux qui sont devenus des serviteurs de Dieu et ceux qui ont eu des vies, qui ont été laissés des empreintes chez les autres, ce sont des gens qui ont passé du temps où ils se taisaient et laissaient Dieu agir en eux. Où ils ont entendu, ils ont laissé agir la parole, ils ont entendu la parole de ceux qui enseignaient. Et c'est là où le travail se fait. Et ce qui permet à Dieu de faire ses outils. Et la question, c'est pour chacun d'entre nous. Oui, Jésus-Christ intercède pour nous. Il intercède pour tout ce qui nous échappe, tout ce qui est au-delà de nous et tout ce péché qui nous accable, lui, il intercède. Mais il y a une partie qui reste pour nous, c'est celle de le laisser faire, de le laisser agir, nous transformer pour que nous puissions être utiles pour lui. L'apôtre Paul a passé 10 ans de formation. Et finalement, son ministère n'était pas si long. Et on prétend qu'il est né en l'an 10. sont des expériences sur Damas, c'est dans les années 37 par là. Et lui meurt en 57. Le ministère court. 10 ans de préparation pour 15 ans de ministère, c'est tout. Oui, mais c'est tout ce qu'il avait à faire. Et Dieu ne calcule pas comme nous. Et Dieu a une tâche pour chacun d'entre nous. La question, c'est est-ce que je suis prêt pour le servir? Est-ce que j'ai identifié quelles sont les choses qui sont des obstacles dans ma vie, qui me distraient, qui font que j'entende d'autres voix que celles du Seigneur? Nous voulons prier. J'espère que chacun, plutôt que de vouloir devenir un apôtre Paul, eh bien dit, Seigneur, je voudrais que tu puisses faire de moi ce que tu as envie de faire. Tu as fait de moi un membre dans ton Église, et donc j'ai une fonction. Et je veux remplir cette fonction. Qu'elle soit voyante ou pas, peu importe, ce que je veux, c'est remplir la fonction pour laquelle tu m'as choisi. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous n'avons fait qu'observer non pas un homme, mais observer ton œuvre dans la vie d'un homme. Et nous voyons comment tu l'as établi. Tu le sauves en un instant, tu l'établis en un jour, mais entre les deux, il y a une dizaine d'années. Père Céleste, j'espère que chacun puisse regarder en arrière et voir ce moment où il a été tiré du péché, retiré du marécage, et que ses pieds ont été plantés sur le rocher. Et maintenant, il y a ce processus de lavage, de renouvellement de l'intelligence, de transformation, de refonte de la personne, pour en faire une nouvelle personne utile, et où tous qui le voient et l'observent doivent constater ton œuvre. Seigneur, oui, la personnalité, tu la préserves, mais tu changes tout. Seigneur, nous sommes tous à des stades, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes à des stades différents de cette transformation. Et nous ne voulons pas d'obstacles, nous ne voulons pas être des obstacles, nous ne voulons pas nous t'empêcher d'œuvrer. Seigneur, maintenant c'est ton esprit qui va parler à chacun. Et que nous puissions identifier les choses qui nous empêchent d'avancer, qui t'empêchent de continuer ton œuvre, et de prendre des résolutions, de les écarter. Et de nous libérer, d'être libérés de ces choses, afin de nous consacrer pleinement à toi. Seigneur, si nous demandons cela, c'est parce que nous avons besoin et parce que toi, tu le veux en nous. Et nous le demandons au nom de ton Fils Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Continuons dans cette réflexion, dans ces moments de silence, et parlez à votre Seigneur, et puis aussi prévoyez un temps où vous allez lui donner l'occasion de continuer de parler.